Les mesures dans les communes se multiplient pour tenter de stopper ces violences. Or, ainsi en Seine-Saint-Denis, le maire UMP et ancien ministre de la ville, Éric Raoult, a déjà instauré un couvre-feu exceptionnel ce soir. Une quarantaine de collèges sur les 116 que compte la Seine-Saint-Denis sont sous surveillance. Des vigiles font des rondes jours et nuits autour des établissements. À Asnières, dans les Hauts-de-Seine, c'est un comité de veille citoyenne qui a été créé. Des bénévoles vont sillonner la ville ce soir pour signaler tout incident. Le préfet du Val-d'Oise a lui interdit toute vente de carburant détail dans le département. La province n'est pas épargnée non plus, avec 300 communes touchées par ces violences, comme à Marseille, Lille ou Toulouse. Ces dernières 24 heures, plus de 1400 voitures ont été brûlées. Des dizaines d'entreprises et de bâtiments publics, écoles ou commissariats ont été attaqués. 36 policiers ont été blessés. Selon le ministère de la Justice, 83 personnes, essentiellement en Île-de-France, ont été écrouées depuis le début des émeutes.
Voilà ce qu'on pouvait entendre sur la radio publique nationale en novembre 2005. Tout ça pour introduire Michel Kokoreff. Michel Kokoreff qui vient de publier Sociologie des émeutes. Et peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, on le disait en introduction de cette émission, depuis plusieurs semaines, on se penche un petit peu sur la question des quartiers populaires, entre guillemets. Et comment est-ce que toi, tu abordes ces questions-là, on voit bien que la définition même de ce que sont ou les mots qu'on va mettre pour parler de ces quartiers-là, ça fait déjà débat, puisque tout ça est lié à des politiques, la politique de la ville, des choses comme ça. Comment toi tu abordes ces questions-là ?
Bonsoir. Tout d'abord, effectivement, c'est un peu compliqué parce que les quartiers populaires, en fait, il n'en existe pas un type. Il y a une grande diversité de situations en France. Et donc, du coup, par exemple, on ne peut pas réduire les quartiers populaires à des cités d'habitat social. On le voit bien sur Clichy, où la majorité du cadre bâti, c'est de la copropriété. Et c'est dans la copropriété qu'il y a des gros problèmes d'entretien, d'appropriation des parties communes, d'endettement des ménages, voire même de poursuites judiciaires. Il y a un reportage très intéressant qui est passé récemment à Marseille sur la cité Calisté, les nettoyeurs. Donc je ne fais pas de publicité, mais qui est vraiment un excellent reportage qui montre qu'effectivement, dans cette cité de Calisté à Marseille, on arrive à des situations de dégradation aussi des parties communes où, en gros, les gens jettent. Bon, et puis, voilà, il y a un mec qui ramasse. Et à force de sensibiliser les gens, sans grosses usines à gaz, bon, on arrive à retourner la situation. Donc c'est compliqué parce qu'il y a une grande diversité de situations. Et on l'a bien vu aussi sur les émeutes. Clichy-sous-Bois, Montfermeil, c'est pas Asnières-sur-Seine, que je connais bien, qu'on a cité là, ou c'est pas non plus le Mirail à Toulouse, où il y a eu aussi pas mal d'événements. Et l'autre difficulté, c'est que les quartiers populaires ont changé, se sont transformés depuis une vingtaine d'années. Et je pense qu'on a un petit peu de mal, quand je dis « on », ce sont les hommes politiques, bien sûr, les journalistes aussi, mais je me mets dans le lot, donc les sociologues, les chercheurs de façon plus générale, on a un petit peu de mal à prendre la mesure des transformations les plus récentes de ces quartiers, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui des quartiers. Alors quelles sont-elles ces transformations ? En gros, que ça se ghettoïse, ça s'ethnicise de façon quand même assez remarquable, même s'il y a des différences de situation, hein. Et que, du coup, quartier populaire, quartier immigré, cité ghetto, et on voit bien tous les biais idéologiques qu'il peut y avoir, parce que dans certains courants progressistes, réformateurs, de gauche, etc., parler de ghetto n'est pas forcément toujours politiquement correct. Et parmi les sociologues, il y a une grande polémique qui consiste à dire, bon, en gros, les ghettos sont aux États-Unis et en France, on n'en est pas encore là. Bon. Donc, est-ce que ces transformations en termes de ségrégation urbaine, de montée du racisme, de difficultés socio-économiques accrues, légitiment ou pas de parler de ghetto c'est aussi une deuxième difficulté en plus de la diversité. Alors, moi, ce qui me frappe quand même beaucoup, c'est que c'est l'ambivalence des représentations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation où tantôt on en dit trop, tantôt on n'en dit pas assez. Tantôt on en dit trop en parlant de zone de non-droit, parce que bon, il n'y a pas de zone urbaine en France où la police ne rentre pas. Je pense que, en tout cas, s'il y en a, elles sont très peu nombreuses. Par contre, il y a des zones où la police n'aime pas aller, ce qui est tout à fait différent. Hein. Bon. Mais on voit bien que derrière le terme de zone de non-droit, il y a toute une idéologie sécuritaire bon, qui est présente. Donc on en dit trop quand on parle de zone de non-droit. Peut-être que lorsqu'on parle de ghetto, on en dit trop. Et c'est vrai que c'est un terme qui est quand même dur à porter pour les habitants. Hein. Faut penser aussi à eux. Mais en même temps, quand on parle de quartier populaire, que ce soit des sociologues, des militants, des journalistes, quand on parle de zone urbaine sensible, quand on parle de catégories comme ça un peu molles, il me semble qu'on n'en dit pas assez, c'est-à-dire qu'on a une vision un peu angélique, euphémisée, molle des situations que vivent les familles, hein, qui sont souvent quand même en grande difficulté sociale, qu'on nomme assez mal les problèmes de délinquance, d'incivilité qui existent, hein, qui ne sont pas un fantasme sécuritaire, qui existent, et que donc on masque un peu par ce terme. Et donc moi, c'est ça qui me semble caractéristique, c'est que tantôt on est dans le trop, tantôt on est dans le pas assez, tantôt on est dans le catastrophisme, tantôt on est dans l'angélisme. Et je pense que si la sociologie et si le rôle des chercheurs existe, c'est d'essayer de nouer ces deux dimensions sans être forcément dans cette espèce de balancement constant.
Marche sous les voûtes et les arches, galère sous les porches, crache sur les marches, les mains dans les poches, canette dans la manche, je rêve de revanche, en semaine et le dimanche, je traîne en zone franche, où l'indigène flanche, où le système se penche, sur les peaux blanches, lèche les plus riches, prêche les bacchiches, le vol, la triche, les vices qui aguichent, ma vie c'est le vide, le creux, le bide, les points sordides, les blagues morbides, le décor du nord et puis des caïdes, sans remords, aucun et que la fièvre de l'or. Guide, des frères sous acide, des porcs qui décident d'infliger la mort sans risquer l'homicide, des tonnes de suicides et moi qui dilapide avant d'avoir des rides, ma santé et mon liquide, j'éprouve pour ce bled une rage qui m'obsède quand il projette de mettre en place l'apartheid, quand ma tête à l'écart et la cause qu'il plaide, quand il nous brime, nous rejette et puis nous dépossède, et mes tours sont laides, mon parcours est raide, je suis à bout, abîmé, nomade et sans remède, j'ai de la haine en trop, refuse l'entraide, je ne demande ni aumône, ni offrande, ni aide. La haine me suit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Tous les jours, je gère et endure. Insulte, lutte, chute, échec et injure. Ignore la nature, le sommeil et l'azur, et les couchers de soleil et les bouffées d'air pur. Je ne vois que misère, grisaille et bulldozer, et pas mal de mes frères moisir sans loisir, choisir au hasard un boulot à saisir, et se retrouver précaire et sans aucun plaisir. Alors, moi je sors et m'emmerde à mort, je vis sans horaire, je dors à l'aurore, j'adore l'univers de la nuit, ses abords et le doux réconfort d'un grand verre d'alcool fort. Les pauvres qui perforent, de riches coffres forts, sans effort se sauvent. Avant les renforts, la casse et le Delbor, ma race et mon folklore, la crasse qui détériore leur emblème tricolore. Derrière les barrières se trouve ma carrière. Aujourd'hui le brouillard et demain la fourrière. Que veux-tu que j'espère faire du son, du sport? La photo est trop foncée sur mon passeport. Je suis aigri, amer, le cœur sous armure. N'aime que la rancœur, le hardcore et le rap dur. Me tape sur les murs, m'en tape du futur. Joue ma vie au baltrap jusqu'à ma sépulture. La haine me suit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit là où je suis. J'ai du mal à garder le fusil dans les tuiles. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Je suis noir, désinvolte et en révolte, et il en résulte mes raisons de prendre le colt. Au vu de ce que je récolte, la crise et la honte, la haine qui me hante, la tension qui monte, le glaive sur ma tête et puis sur ma route. Sirène, descente, doute et déroute, une sale vie d'adulte que seul le sang exalte et qui souvent exulte quand il coule sur l'asphalte. Et ça suinte, la crainte, les pleurs et les plaintes, les ruses et les feintes, les caves que j'emprunte, les pentes que j'arpente, l'ennui et l'attente, l'achat et la vente, et les rêves qu'on s'invente, les flics qu'on évite, souvent qu'on évoque, quand tribunaux et grandes instances nous convoquent. Et je suis ce produit qu'on a réduit à marcher jour et nuit, le fusil dans les tuyaux. La haine me suit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La haine me suit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. La chance me fuit, là où je suis, j'ai du mal à garder le fusil dans les tuyaux. J'ai rempli le canon et puis il se peut qu'un beau jour pour un rien j'appuie. Gazé, en falche, 2005.
En France, le calme est revenu ce matin à Vaux-en-Velin après 48 heures d'émeutes, mais le calme dans une banlieue défigurée. Plusieurs magasins ont été détruits, des voitures incendiées, des policiers, des pompiers et des journalistes blessés. Et ce matin, la ville s'est réveillée sous le choc, comme anesthésiée par une telle flambée de violence. La ville est toujours sous haute surveillance. Reportage FR3 Lyon, Myriam Figuereau.
Tension cet après-midi autour et dans le centre commercial du Grand Vire. Les forces de l'ordre ont patrouillé en rang serré. Vers 17h, trois personnes ont été interpellées, puis relâchées aussitôt. Conséquence, nouvelle manifestation quelques minutes plus tard, cette fois autour du commissariat, où la situation ce soir reste confuse. Pourtant ce matin, le calme semblait être revenu. Devant le centre commercial saccagé, la peur, le découragement, l'amertume ou l'exaspération jaillissaient des cœurs et des regards.
Franchement, j'ai peur. J'ai des enfants, je voudrais pas que ça recommence. J'ai jamais vu ça de ma vie.
La perdition au fils maintenant. Et c'est pas les commerçants qui vont rendre son fils maintenant. C'est pas les commerçants qui vont rendre son fils.
Eh ben non, mais ils en sont pas cause. Et toutes les voitures qui sont brûlées, ils vont aller travailler comment, les ouvriers?
Les politiciens et tous ceux qui ont voulu tout ça. Ils nous ont mis dans des ghettos. Ils ont mis tous les maghrébins dedans. Bah voilà. Voilà, maintenant, ça pète.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel dans l'émission Les Oreilles Loin du Front. Et donc, on reçoit Michel Kokoreff et on parle des émeutes suite à la publication de son livre Sociologie des émeutes. Michel, tu voulais préciser deux mots par rapport à ce dont on parlait tout à l'heure?
Oui, c'est-à-dire que bon, il y a une ambivalence, donc il y a une difficulté à nommer ces quartiers. Et c'est vrai que c'est compliqué de les nommer sans les stigmatiser, c'est-à-dire sans dans les termes qu'on utilise, nous tous, hein, parce qu'il n'y a pas que les sociologues qui utilisent des termes. Dans les termes qu'on utilise, effectivement, on peut en rajouter une couche dans la mise à l'écart, la stigmatisation, etc. Bon. Alors du coup, évidemment, on peut parler de quartier paupérisé de la banlieue ouvrière ou des banlieues ouvrières. Bon, c'est un peu long, mais en même temps, ça dit bien la réalité parce que ça permet de mettre l'accent sur la dimension sociale qui reste fondamentale. On peut parler des quartiers pauvres. Les quartiers populaires sont devenus des quartiers pauvres à la périphérie des villes. Bon. Cela dit, on peut aussi tout simplement, enfin c'est pas une définition puisque la question que tu me posais c'était comment les définir, mais moi je pense que ce qui est très important c'est les termes que les gens utilisent eux-mêmes dans les quartiers. Et c'est vrai que la référence au quartier, dans le quartier il se passe ci, vient au quartier, etc. Bon, alors implicitement elle suppose une espèce de d'attachement au territoire, une identité locale. Et je pense que c'est un élément à retenir. Et peut-être cet élément-là différencie la réalité dans les quartiers populaires aujourd'hui de ce qu'elle était il y a 20, 30 ou même un siècle. Hein. C'est qu'aujourd'hui, ce n'est plus la condition ouvrière qui définit ces espaces de vie. Ce n'est plus une position dans un milieu professionnel. C'est beaucoup plus, assez majoritairement, une identité locale. Alors, qu'elle soit négative, c'est-à-dire effectivement colportée par les médias, le stigmate, etc., ou qu'elle soit positive, au sens où on est fier d'habiter dans ce quartier-là. Bon. Et on retrouve d'une certaine manière cette ambivalence, hein, entre le négatif et le positif. Donc, Bon, moi, j'ai pas trop d'état d'âme à utiliser le terme de quartier, même si on sait bien, tous, je pense, que implicitement dans le discours officiel aujourd'hui en France, dans l'idéologie dominante, quartier, ça veut dire quartier immigré, et jeune des quartiers, implicitement, ça veut dire jeune issu de l'immigration maghrébine. Postcolonial, on peut rajouter. Mais du coup, alors ça veut dire que dans la définition des quartiers populaires, il y a un élément urbain, à n'en pas douter, c'est à la périphérie des villes, c'est dégradé, c'est ségrégé. Il faut aller à Clichy-sous-Bois pour se rendre compte quand même des situations dans lesquelles vivent les gens, dans quelle violence de l'environnement les gens vivent. Il y a un élément social qui est absolument fondamental. Bon, donc on peut dire, encore une fois, quartier paupérisé des banlieues ouvrières, on peut dire quartier pauvre, hein, parce que, je sais pas, au regard du taux de chômage, de la précarité, des indices en termes de revenus, il y a un écart, mais quand même, qui est gigantesque, ne serait-ce que parfois avec la commune de référence, mais c'est plus vrai à l'échelle, par exemple, de la région parisienne. Puis il y a une dimension ethnique sur laquelle on reviendra sans doute, et qui fait que les Blancs sont partis et les non-Blancs se retrouvent entre eux. Bon. Et ça, évidemment, c'est un peu brutal de dire les choses comme ça, mais la réalité est brutale elle-même. Et ça, ça fait que les quartiers populaires d'antan à la Amélie Poulain, c'est pas exactement ça. C'est pas vraiment le sujet.
Raphaël.
Oui, Michel, là on va aujourd'hui plus particulièrement parler des émeutes de novembre 2005, mais peut-être ce serait intéressant que tu resitues rapidement en fait, ces émeutes dans une continuité historique et peut-être partir du début des années 80, enfin Vénissieux ou alors directement après sur Vaux-en-Velin et pour arriver jusqu'à novembre 2005.
Y a-t-il vraiment une continuité historique aussi peut-être ?
Oui, il y a une continuité dans le schéma, dans le scénario. Hein, c'est-à-dire que, et d'ailleurs pas qu'en France, hein, on retrouve ça en Angleterre, on retrouve ça aux États-Unis dans les années 60. C'est quoi la base ? La base, c'est un conflit entre les forces de l'ordre et des jeunes de minorité ethnique. Hein. Bon, en France, on ne parle pas de minorité ethnique, on sait qu'il n'y en a pas, hein, tout le monde le sait. Mais bon, en réalité, bien sûr, il y en a, mais le modèle républicain nous interdit de les penser. Mais en gros, c'est le même scénario. Hein. À chaque fois, on retrouve la même chose. Alors, si on fait une chronologie rapide, en fait, ça... Il faudrait dire d'ailleurs qu'on est assez peu documenté et qu'il reste à faire une histoire sociale des émeutes en France, mais qui ne partent pas des années 70, hein, parce que c'est à partir de là où ça commence, mais qui repartent éventuellement du 19e siècle. Bon. Mais pour ce qui concerne la période contemporaine, effectivement, les premiers événements qu'on peut assimiler à des émeutes urbaines, c'est dans les années 75-76 à Villeurbanne. Et en gros, c'est poursuite de jeunes par des policiers, décès, insultes racistes et aussi des procès qui tournent, qui débouchent sur des non-lieux devinés en faveur de qui. Et donc déjà dans les années 70, la France découvre que les immigrés ont des enfants. C'est quand même une grande révolution. Hein. Né en France, souvent, de nationalité française. Bon. Et là, il y a une première cristallisation quelques années avant les succès que l'on connaît du Front National. Cette période-là, elle est très méconnue, mais elle me semble très importante parce qu'encore une fois, tout est en place. Et déjà, le problème de l'ordre public dans les banlieues vis-à-vis de ces jeunes dits de l'immigration est posé. Évidemment, lors des rodéos des Minguettes au début des années 80, ça se répète et ça fait grand bruit parce qu'on a changé de régime avec l'élection de Mitterrand. Donc on ne s'attendait pas vraiment, la gauche au pouvoir, à ce que ce soit dans les quartiers que ces phénomènes. Bon. Et puis petit à petit, tout au long des années 80, la question de l'ordre public va être refoulée. Je dis ça rapidement, ça paraîtra peut-être un peu provocateur, mais le développement des SOS racisme, c'est plutôt autour, alors bien sûr, du racisme, mais surtout, on l'oublie, de l'échec scolaire et de l'insertion professionnelle. Et la question de l'ordre public va être reléguée avec un déplacement de classe assez significatif, hein, quand même, quand on s'intéresse à l'insertion et à l'école. Bon, et d'une certaine manière, 90 Vaux-en-Velin, c'est une sorte de retour du refoulé. hein, c'est-à-dire avec 3 jours de pillage, mais toujours avec le même scénario, hein, c'est-à-dire Thomas Claudio qui est poursuivi par une voiture de police à moto et qui meurt dans des conditions restées non élucidées, hein, parce que dans cette affaire-là, il y a toujours une parole de vérité qui s'oppose à une rumeur. La parole de vérité étant celle de l'institution, étant celle de la police, et la rumeur étant celle des habitants et des jeunes en particulier. Les années 90, c'est... Alors, bon, évidemment, Vaux-en-Velin, c'est important parce que c'était une sorte de laboratoire de la politique de la ville, hein, de ce qu'on appelait la politique de la ville depuis 88 et de ces dispositifs à la fois de désenclavement, de réhabilitation, de lutte contre la délinquance, pour l'insertion professionnelle. Bon, et effectivement, c'est ce qui paraissait comme un observatoire, boum, ça pète là. Donc c'est toute la politique de la ville qui est remise en cause à tort ou à raison. On voit le phénomène se diffuser en 92, en 93, à Sartrouville, à Narbonne, à Mantes-la-Jolie. Bon, et je dirais que les années 90, c'est un peu le développement des micro-émeutes. Mais encore une fois, toujours selon le même, avec le même scénario. C'est-à-dire, par exemple, en France, on n'a jamais eu d'émeutes interethniques. On n'a jamais eu de conflit entre des membres de la communauté africaine, subsaharienne et des membres de la communauté maghrébine. Bon, c'est pas parce qu'on n'utilise pas ces catégories-là, mais c'est parce que on n'a pas des situations que l'on trouve par contre beaucoup plus fréquentes en Angleterre. Et bon, je dirais que on peut continuer la litanie en passant par Nîmes, Toulouse en 98, Nîmes 99, Lille 2000, etc. Et bon, alors on va sans doute en parler, mais 2005, à la fois Ziad et Bouna, le transformateur électrique, les premières nuits d'émeute à Clichy-sous-Bois, c'est à la fois la continuité de ce scénario, hein, c'est-à-dire que c'est pas simplement le fait que la police est d'ailleurs poursuivie, puisque maintenant on sait qu'elle les a poursuivis, ces adolescents qui sortaient d'une partie de football, c'est aussi les déclarations du lendemain qui mettent le feu aux poudres. Hein. Bon, ça, c'est bien connu. On se souvient tous des déclarations du ministre de la police, hein, qui dit « il n'y a pas eu poursuite », et qui dit en même temps « ce sont des délinquants ». Donc effectivement, comme hommage aux victimes, c'est pas mal pour celui qui est si attaché aux victimes et aux familles. Bon. Et ça, ça secrète évidemment une forte émotion. Mais encore une fois, on est dans un scénario connu. Là où on bascule, c'est que il y a une espèce de mayonnaise que j'essaye d'expliquer un peu dans le livre, qui fait que ça prend un caractère national et que ça dure plus 3 jours, ça dure 3 semaines. Et là, d'une certaine manière, il y a une rupture de charge, il y a un changement d'échelle. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans des émeutes localisées, on n'est plus dans des émeutes sporadiques, hein, qui durent 2 ou 3 jours. On est dans un phénomène national et quand même avec une durée non négligeable.
Alors si on revient sur la chronologie justement de ce qui se passe suite à la mort de Ziad et Bouna tout au long du mois de novembre 2005, on voit qu'il y a différentes phases quand même. C'est que ça va dans un premier temps rester relativement circonscrit entre guillemets à un bout du 93. Qu'est-ce qui fait que ça... Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui fait que les choses évoluent comme ça durant ces 3 semaines ?
Alors, moi d'abord, ce qui m'a semblé important dans ce livre, c'était de revenir sur la chronologie, alors en m'appuyant sur des sources journalistiques, mais aussi en m'appuyant sur des témoignages, notamment le livre de Mignard et Torjman qui s'appelle « L'affaire Clichy », qui est tout à fait remarquable, mais aussi d'autres témoignages, parce que, évidemment, avec le recul...
Alors, juste pour préciser, Mignard et Torjman sont les deux avocats des familles des victimes et qui donc racontent au jour le jour ce qui se passe quand ils prennent la défense de ces jeunes-là, et y compris les rapports avec le ministère de l'Intérieur, des choses comme ça.
Absolument, voilà. Et ça, c'est assez... bon, ils montrent par exemple très bien comment se construit très vite une version officielle. Hein, bon. Et donc, il y a un ensemble de témoignages qui nous permettent à la fois... qui nous permettent 3 choses, qui nous permettent, un, d'avoir donc une idée très précise de ce qui s'est passé réellement sans recouvrir tout de suite par un discours ou une interprétation les faits. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça nous permet de comprendre qu'il y a eu un mensonge d'État. Hein, je pèse mes mots, mais de fait, C'est bien ce qui s'est produit. Il y a eu un déni de réalité en même temps qu'un déni de justice. Enfin, et puis, il faut quand même essayer de comprendre et d'expliquer pourquoi il a fallu attendre une semaine pour qu'une instruction judiciaire soit ouverte, alors que la France n'était peut-être pas au bord de la guerre civile, comme l'a dit Fox News, mais quand même, ça pétait sérieusement. Il y avait eu 2 morts et un blessé grave. Donc ça supposait pas, non, d'ouvrir une instruction judiciaire. Bref. Et la troisième chose... sur un registre moins polémique, mais tout aussi important, me semble-t-il, c'est que on voit bien que la lecture des événements traduit des rapports sociaux, hein, tout simplement entre le ministère de l'Intérieur et des jeunes, entre des élus locaux qui sont proches du terrain, entre des policiers. Bon, hein. Alors, ce qui a été, pour revenir à la question, donc ce qui a été important, me semble-t-il, c'est pas simplement l'événement initial de l'électrocution dans le transformateur électrique et les premières déclarations le lendemain, c'est l'événement de la mosquée. Pourquoi c'est important ? Parce que...
Rappelons ce qui se passe.
Alors, là aussi, il y a lutte des interprétations, il y a toujours une espèce d'incertitude, mais en gros, si on veut être dans la neutralité la plus absolue, on peut dire que 2 grenades lacrymogènes, ont été lancées de manière non intentionnelle à proximité d'une mosquée, donc la mosquée Bilal, à Clichy-sous-Bois, et qu'il se trouve que dans cette mosquée, il y a 2 salles, ce n'est pas toujours le cas, une pour les hommes, une pour les femmes, que la porte de la salle de prière des femmes était ouverte, que les gaz, même si la grenade n'a pas été lancée intentionnellement contre la mosquée, sont rentrés, et que ça a été la panique, que les femmes sont sorties, qu'elles se sont fait insulter par la police, bon, et que du coup, ça a provoqué une très grande colère de la part des adultes, de la part des parents, comme on dit, des papas et des mamans. Et moi, je pense que c'est un événement qui est très important, pas simplement parce que c'est la communauté musulmane qui a été atteinte, quoique il faut bien considérer qu'il y a une espèce de racisme et de discrimination qui est intériorisée par les populations dans les quartiers aujourd'hui. Mais là, on franchit un seuil. Et ce seuil est insupportable et il explique la réaction. Mais en même temps, il y a un deuxième phénomène, c'est que les petits se sont vus légitimés dans leur colère par celle des grands. Autrement dit, si les parents, si nos parents réagissent avec une telle virulence, nous sommes autorisés et nous sommes légitimés, peut-être pas à aller brûler des voitures, mais aussi à manifester notre colère. Et donc il y a aussi un seuil de tolérance qui est passé par rapport à ce phénomène-là. Et donc ce phénomène qui intervient la mosquée, donc c'est le dimanche 30 octobre, 4 jours après, 3 jours après le 27, ça contribue. Ça joue un rôle très important dans la généralisation, en tout cas dans la diffusion, en Seine-Saint-Denis et petit à petit dans l'Île-de-France la première semaine. Hein. Donc au bout d'une semaine, on arrive effectivement à des échauffourées, comme l'on dit, dans les différents départements de l'Île-de-France. Et puis la deuxième semaine, on va avoir un phénomène qui va prendre une dimension nationale. Alors attention, je ne dis pas que c'est simplement cet événement de la mosquée qui fait que ça s'est généralisé. Mais il y a eu quelque chose de très important. D'autant que le samedi, il y avait une marche silencieuse à Clichy. Et on sait combien les marches silencieuses sont imposantes. Et en même temps, elle a contribué à calmer les esprits, à appeler au respect, à la dignité, etc. Bon. Et les choses se tassaient un peu. Alors, ce qui est intéressant dans les interprétations, c'est que celles qui mettent l'accent, en tout cas, ce n'est pas des interprétations, c'est des récits, des témoignages sur le comportement des forces de police le samedi. Le samedi, donc le troisième jour, un comportement extrêmement provocateur de la part de la police, mais c'est vrai le samedi et c'est vrai aussi bien le dimanche. Or, ce qui est paradoxal, c'est que la hiérarchie policière considère que le dimanche, les émeutes sont terminées, qu'on va vers une queue. Et on est dans le schéma classique. Au bout de 3-4 jours, ça se tasse. Hein, bon. Alors, qu'est-ce qui fait qu'effectivement, on a eu un rebondissement ? Bon. Alors, certains acteurs locaux vont jusqu'à considérer que c'est une stratégie du pourrissement qui a consisté à relancer en quelque sorte les émeutes par cet épisode de la mosquée. Bon, c'est sans doute aller un peu loin. Bon, mais moi, ça me semble intéressant parce que d'une part, ça met en relation les différentes lectures que les acteurs sociaux peuvent faire. Et d'autre part, ça permet d'avoir une vision qui n'est pas naïve des événements. Parce qu'on le verra par la suite, et c'est aussi un point que je développe en revenant sur le CPE, c'est qu'il y a eu une instrumentalisation politique de la violence. Et l'actuel président de la République a très bien su jouer sur les événements, sur l'indignation qu'il suscitait et sur la manière dont il pouvait en tirer bénéfice politiquement. Et donc, je ne dis pas que, évidemment, ça a été provoqué, cet épisode de la mosquée, mais alors que tout le monde pensait que ça allait se calmer, c'est venu relancer et eh bien, ça a profité à certains.
Oui, parce que tu évoquais le livre des avocats de la famille des jeunes. Il y a d'autres témoignages qui vont dans ce sens-là. On a l'impression qu'à aucun moment donné, il y a de gestes qui sont faits pour trouver une sortie, un apaisement, et y compris le seul signal qui est envoyé, c'est de Villepin qui réactive une loi coloniale de 55 pour mettre en place le couvre-feu, alors que les émeutes...
Qui ne sera pas appliquée d'ailleurs.
Voilà, mais ceci dit, elle est réactivée.
Oui, bien sûr, oui, mais c'est important, bien sûr. Alors ça, c'est à mon avis, c'est le troisième événement déclencheur. C'est la déclaration de l'état d'urgence, je crois que c'est le 7 ou 8 novembre. Hein, c'est le moment du pic, d'ailleurs, des émeutes, en tout cas si on prend comme baromètre indicateur le nombre de voitures brûlées. C'est là où il y en a eu le plus. Je crois que c'est le lendemain de sa déclaration. Bon. L'état d'urgence, donc ça montre quand même qu'on est dans une crise majeure, hein, que le terme de violence urbaine est un peu léger pour décrire ce qui se passe. Bon, alors est-ce que 68, ça c'est un autre débat, mais c'est on voit bien que c'est un événement majeur. Et effectivement, il y a un télescopage entre l'ordre public et l'ordre colonial qui est évident pour un certain nombre de gens qui vivent dans les quartiers ou qui se rappellent de la guerre d'Algérie. Ça, c'est clair. Mais en même temps, quand même, ce qui est important, c'est que ça n'a pas été appliqué. Ça n'a pas été appliqué. Et donc, du coup, on peut se demander pourquoi cette mesure d'état d'urgence, si elle n'est pas appliquée par les représentants de l'État, c'est-à-dire par les préfets.
1500 réservistes vont rejoindre les 8000 policiers et gendarmes sur le terrain. C'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte. C'est la boîte de Pandore qui s'est ouverte.
Partout où c'est nécessaire, les préfets pourront, sous l'autorité du ministre de l'Intérieur, appliquer le couvre-feu s'ils l'estiment utile pour permettre un retour au calme et assurer la protection des habitants. C'est notre première responsabilité, c'est notre premier devoir.
Donne ta main.
On a rien fait, vous nous avez agressé comme ça.
On vous a agressé.
Monsieur, vous m'avez
non.
J'ai rien fait.
Mais c'est pas une agression. J'ai fait non. Attention. J'ai pas de malentendu. C'est pas une agression. C'est des techniques de police.
Le mot racaille est sans doute un peu faible.
Ce sera, si vous le voulez bien, à ses enfants de répondre dans quelques années.
On va vous en débarrasser.
Une révolte populaire des cités, bien plus que de simples violences urbaines. Dans un rapport dévoilé ce matin par le journal Le Parisien, c'est ainsi que les renseignements généraux qualifient les événements qui ont embrasé certaines banlieues françaises le mois dernier.
Yeah, imagine-toi. Mets-toi dans la peau de ceux qui ont vécu les émeutes à Clichy-sous-Bois et à Montfermeil. Scolarisé, mais rapatrié, je constate que Nicolas Sarkozy n'a aucune pitié. J'étais devant ma télé, j'ai entendu ma télé. Ce sont les consignes qui viennent du ministère de l'Intérieur. J'étais visé, moi aussi désigné, jugé immédiatement sur le banc des accusés. J'entends les clics clac, renfort le big black. Refuse d'obtempérer, venez vite, gars.
Allô, est-ce que vous me recevez?
Peut-être qu'on aura besoin même de l'armée.
Ok, cette fois-ci c'est sérieux.
Tout est pour le français, son tassin à feu. Pas façon je la vis, surtout quand on est black. Même avec le sport, les diplômes et le rap. Juste pour une red bar, qui se batte à moi, coûte à pas pour du que gras. Ma reine, on fout le boxe dans ta baraque. On
de t'armer, tu testes, on te marre. Affrontement mortel comme à Bagdad. Oh mère patrie, je vois ton sale cadavre. Y'a du sang sur le calage, c'est un pire carnage. On s'en fout au péage, mauvais présage. On défonce la police et tous ces barrages. Regardez cette haine qui nous dévisage. Toutes ces injustices qui nous foutent la rage. Font que la plupart des mecs comme moi deviennent de plus en plus hors la loi. Quand on n'a rien à perdre, on est sombre et noir. On a tous vécu ces événements de très près. Qu'on fasse partie au nom de la classe moyenne. Le public français, ses entreprises ferment. Des milliers d'employés sont foutus dans la merde. Les scandales financiers s'enchaînent. Les SDF sont livrés à eux-mêmes. La canicule a tué des vieux et des vieilles. Ils sont papiers hors des frontières. Donc voici les failles du système. La fête d'outre-erreur judiciaire. La liste est tellement longue, il y a trop de problèmes. Donc sois en clair pendant les présidentielles. La sécurité est un fonds de commerce. Méfie-toi des tactiques politiciennes. Reprends ton pays cette fois-ci du même verbe. Marianne, ne laisse pas tomber ta jeunesse. Marianne, écoute ton peuple qui s'énerve. Tes pavés sont pleins de gens qui manifestent. J'ai peur que ton bateau coule pour de bon. C'est sur de bonnes bases que t'as créé cette nation. Marianne, mets de l'ordre dans ta maison. Ne laisse pas n'importe qui gagner les élections.
Voilà, on est toujours dans l'émission Les Oreilles Loin du Front et on est toujours avec Michel Kokoreff. On continue cette conversation à propos du livre Sociologie des émeutes qui vient de sortir. Raphaël.
Oui, Michel, parce qu'en fait, je voulais revenir sur l'histoire de... Tu reviens souvent sur la distinction en fait, entre les termes violences urbaines auxquels toi tu préfères substituer l'expression émeute urbaine ou révolte populaire. Et du coup, aborder un petit peu la question de la politisation de ces émeutes et puis du point de vue des institutions, le désir de dépolitiser ces émeutes et de les réduire à une série de délits ou à des choses comme ça, tu peux...
Oui, alors il y a une double dépolitisation. Ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire que d'un côté, quand on parle de violences urbaines, quand on fait de ces événements des activités délinquantes, hein, des délits, lorsqu'on fait donc du coup aussi des acteurs, des émeutiers, des délinquants, c'est ce qu'a dit d'ailleurs Sarkozy, 80% des gens qui ont été interpellés sont connus des services de police et de justice. Bon, il s'est avéré... C'est pour ça que c'est important d'en reparler et d'avoir des enquêtes deux ou trois ans après, que c'était faux et qu'on était plutôt sur un tiers de gens qui étaient connus des services de justice, parce que connus des services de police, c'est un terme qui n'a aucune signification juridique. Bon. Donc il y a cette dépolitisation, il y a une espèce de disqualification d'emblée, hein, où d'emblée on disqualifie. Mais en même temps, je dirais que c'est une dépolitisation de droite à laquelle vient s'ajouter, ce qui est peut-être plus gênant, je ne sais pas, une dépolitisation de gauche ou plus progressiste. En effet, quand on considère que finalement ces émeutiers sont les victimes de mécanismes sociaux, de bouleversements structurels et urbains, on considère effectivement qu'ils n'ont pas de revendications, qu'ils n'ont pas de porte-parole, bref, qu'ils n'ont rien à dire, qu'ils sont bien des pures victimes. En n'entendant pas éventuellement ce qu'ils peuvent dire, eux, sur la signification de leur action ou ce que peuvent dire leurs proches. Donc moi, je suis très frappé quand même par ça, par cette double dépolitisation et cette espèce de consensus quand même un peu étonnant qui peut balayer l'espace politique. Alors après, le problème, c'est qu'il faut distinguer deux choses. C'est-à-dire que, deux questions. Est-ce que les émeutes de 2005 répondaient à des enjeux politiques, ont eu une signification politique? Et la deuxième question, c'est est-ce que c'est un mouvement politique en tant que tel? Et je pense que c'est important de les distinguer. Sur le premier plan, ça me semble assez évident que les enjeux ou les significations politiques me semblent assez évidents. Hein, parce que on a visé, parce que la colère, c'est d'abord adressée au ministre de la police, symbole du mépris, de la discrimination, du déni d'existence même, je dirais. Bon. Et donc que disaient, alors on ne l'a peut-être pas bien entendu, mais quand même, que disaient les émeutiers ou leurs proches? Ils disaient Sarko démission. Ils mettaient en cause le fonctionnement, de la police comme, comme institution. Bon, donc il y avait cette première dimension qui a été redoublée évidemment par l'espèce d'épreuve de force qui dure depuis au moins la Courneuve. Il faut passer le Karcher dans ces cités en juin 2005 et puis réactivé par la fameuse phrase sur la racaille à Argenteuil. Et là, on est dans une espèce de rapport de force vertical, mais rapport de force entre le ministre d'État et la soi-disant racaille, hein, qui nous rappelle bien le prolétariat d'antan. Bon. On est dans un rapport viriliste. Hein. Il est très viriliste. Bon, il l'est resté un peu, d'ailleurs. Il y a une autre dimension politique, un autre enjeu politique. Il est cette fois horizontal. C'est quand même le combat entre le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur dans un contexte de pré-présidentiel et alors que le monarque vieillit. Et comme l'avait très bien fait remarquer Patrick Jarreau dans Le Monde, ça nous rappelle une histoire, celle de mai 68, où effectivement ces événements s'étaient aussi déroulés alors qu'on avait un monarque plutôt vieillissant. Bon. Cette dimension politique-là, elle a continué au moment de la mobilisation anti-CPE, hein, et quand même, elle s'est traduite par un chaos de Villepin et quand même une grande avenue qui était ouverte au président de l'UMP. On connaît la suite. Bon. Alors, est-ce que c'est un mouvement politique? Ça, c'est une autre question. Alors moi, je dirais que ce n'est pas le grand soir. Il ne faut pas se tromper, évidemment, de phénomène ou d'événement. Mais il y a quand même quelque chose qui est frappant. C'est un sentiment d'injustice à l'égard de la police, à l'égard des institutions, de façon générale, à l'égard de la société, qui est manifesté par les émeutiers, mais que comprennent très bien aussi les parents, que comprennent très bien aussi les proches. Et alors ça, c'est pas du politique au sens conventionnel du terme, hein, mais c'est quand même un fort sentiment de révolte, alors qu'on retrouve d'ailleurs dans quasiment toutes les émeutes. Donc on peut dire dans ce sens-là que la violence collective est l'expression politique des gens qui sont justement privés d'expression politique. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont pas syndiqués, ils sont pas politisés. Faut dire que on les a pas aidés et on connaît le divorce de la gauche, en particulier avec ses cités, voir le livre d'Olivier Masclet sur le sujet. Bon. Donc, ils sont pas politisés, ils sont pas syndiqués, ils sont en deçà du politique, mais ils ont quand même un discours ou des revendications ou des aspirations sociales qui ont une portée politique. C'est pas simplement qu'ils demandent la justice, c'est pas simplement ça, c'est qu'ils demandent l'égalité. Et à mon avis, le nerf de la guerre, et ça recoupe quand même un certain nombre de choses qui ont été dites par d'autres sociologues, c'est l'histoire de la citoyenneté. C'est-à-dire que d'un côté, ils vivent au quotidien un déni de citoyenneté, et c'est pas pour rien que le rapport à la police est aussi central, parce que les contrôles aux faciès, les contrôles d'identité qui éventuellement se tournent mal, c'est quelque chose de quotidien, et régulièrement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, il y a des drames. Le dernier en date, c'est Villiers-le-Bel, mais malheureusement, il y en aura sans doute d'autres. Et d'un autre côté, ce que demandent et ce que disent ces jeunes et ces moins jeunes, c'est l'égalité des chances, l'égalité à l'école, l'égalité de citoyens. Bon. Donc il y a cette dimension-là qui me semble être, donc pour même si, excusez-moi d'être un peu long là-dessus, mais c'est important, qui me semble être infra-politique, en deçà du politique, au sens où c'est pas du politique conventionnel, ce qu'on connaît pour les élections municipales, etc., hein, mais ça traduit une aspiration sociale qui est celle des gens qui, encore une fois, sont marginalisés des structures politiques classiques. Donc, à mon avis, pour y comprendre quelque chose sur la dimension, disons, politique par le bas, hein, parce qu'il y a une dimension politique par le haut, c'est Sarkozy, de Villepin, etc., l'adresse à l'État, la police, mais il y a une dimension aussi politique par le bas. Pour y comprendre quelque chose, il faut faire une distinction toute simple entre des formes non conventionnelles d'action politique et des formes conventionnelles d'action politique. Et ça peut être utile parce que à travers les émeutes, alors évidemment c'est violent, Il ne faut pas la nier, la violence. Elle est présente, et notamment elle est présente lors des premiers jours. Hein, ça, c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas assez expliqué. Après, elle s'est diluée. Mais ces formes d'action non conventionnelles, elles peuvent nous rappeler d'autres mobilisations collectives aujourd'hui importantes en France, où on essaye de faire de la politique autrement. Alors, c'est les sangs, c'est les prostituées, c'est toute une série d'exemples, hein, bon, où on a des tentatives souvent malheureuses, souvent éclatées, hein, mais encore une fois, de faire de la politique autrement. Alors, moi, ce que je trouve intéressant, peut-être pour finir, c'est que, évidemment, il y a la frontière entre les deux est poreuse. Quel est le rapport entre des formes non conventionnelles d'action politique et les formes conventionnelles ? Eh ben, c'est quand les gens s'inscrivent sur les listes électorales. Et on a vu effectivement qu'en 2005, ils se sont inscrits massivement et pas que dans la Seine-Saint-Denis. Et deuxièmement, un indicateur important, c'est le taux de participation. Bon. Et donc, encore une fois, c'est pas le grand soir, hein, c'est pas la révolution, mais il y a eu une forte participation dans les quartiers populaires lors du premier tour des élections présidentielles, en faveur, vote utile oblige, sans doute, de Ségolène Royal. Et ça, c'est pas rien. Et on retrouve un peu ça, d'ailleurs, lors des municipales, où on voit bien que bon, y a de l'effervescence et que le souvenir des émeutes est encore très présent.
Alors, on va peut-être avancer un petit peu dans ton bouquin. Il y a quand même, ce bouquin repose, il faut le préciser, quand même sur une enquête, un vrai travail de terrain. Et du coup, ce qui change un petit peu de la masse qu'il y a eu de production des bouquins autour des émeutes qui se contentaient bien souvent de travailler sur des revues de presse ou des documents de seconde main. Ça serait intéressant de revenir sur la police, puisque tu as eu l'occasion non seulement de t'approcher de la population et des jeunes pour comprendre le rapport des jeunes avec la police, mais aussi sur la question de la gestion policière des émeutes, où on voit bien qu'on a affaire à autre chose que le quotidien de la police qui a provoqué ces émeutes. Je ne sais pas si...
Oui, alors, un mot sur l'enquête de terrain, peut-être, c'est que, effectivement, le livre s'appuie, ce n'est pas un commentaire. Bon, ça, c'était une possibilité, mais je m'appuie, en fait, sur trois terrains. Deux qui sont en Seine-Saint-Denis, donc Saint-Denis, la commune de Saint-Denis, et... Je vais les mélanger, mais dans le livre, je les distingue, Clichy-sous-Bois et Montfermeil. Bon, on sait pourquoi, puisque ça a été le point de départ. Et puis, j'ai ajouté un troisième terrain aussi qui me semblait intéressant. Bon, puis j'avais une opportunité, parce qu'en fait, le début des émeutes, je les ai plutôt vécues de là, je veux dire en direct. C'est une cité de banlieue à Paris, une cité dans le 19e arrondissement. Donc, j'ai en gros... trois terrains, Saint-Denis, Clichy-Montfermeil et une grosse cité de 5000 habitants dans le 19e arrondissement de Paris. Alors, sur le rapport à la police, bon, on sait que c'est central. Bon. Et en même temps, c'est un peu étonnant de devoir le rappeler, parce que on a été tellement submergé par tout un tas d'interprétations et d'explications, sans doute souvent très intéressantes, mais quand même ayant un inconvénient majeur, à mon avis, c'est un double inconvénient, c'est quand même de masquer le point central des émeutes en général, et là en particulier, qui est le rapport plus que tendu entre la population et les forces de l'ordre, mais surtout... la sécurité publique, on reviendra peut-être sur cette distinction, parce que la police, c'est les forces de l'ordre au sens de maintien de l'ordre, CRS et gardes mobiles. Donc eux, ils interviennent quand il y a le feu, mais au quotidien, c'est la sécurité publique. Et le problème central, le problème, je veux dire, de compétences professionnelles, il se pose au niveau de la sécurité publique. C'est ça le point central. Bon. Donc... on est quand même un peu, pas honteux, mais étonné de devoir rappeler que c'est ça le truc. Alors, moi, ce qui me semblait intéressant, c'était de ne pas avoir forcément une vision unilatérale des choses, c'est-à-dire ne pas simplement prendre le point de vue des jeunes et de sous-estimer le point de vue des policiers. Alors ça n'a pas été très facile à faire parce que, comme on l'imagine, l'institution policière est plutôt fermée à des sociologues, mais aussi à d'autres. Bon. Néanmoins, par la voie syndicale, j'ai eu la possibilité de rencontrer des policiers qui m'ont un peu expliqué leur boulot, qui m'ont un peu expliqué dans quelles conditions de travail ils vivaient. Ces cités ou ces rapports avec la population. Et l'ambition, c'est de porter un regard croisé sur les émeutiers et les forces de l'ordre, les habitants des quartiers et donc de façon plus générale la police. Parce qu'il me semble que c'est de cette manière-là qu'on peut sortir de ce cercle infernal où on est dans un jeu de provocation réciproque, hein, où évidemment une interpellation qui tourne mal, une dérive, elle va provoquer un guet-apens 3 jours après, et le guet-apens va faire qu'éventuellement les policiers vont y retourner, mais la peur au ventre ou éventuellement la rage, avec une petite quand même envie de se venger. Bon, et évidemment on ne peut être que dans une logique de surenchère. Donc je pense que c'est à la fois très important de bien mesurer l'impact de cette relation problématique entre jeunes et forces de l'ordre, mais tout aussi bien de procéder à des regards croisés. Alors, sur la partie habitants des quartiers, on sait, parce qu'en même temps, ce que je dis, on le dit depuis 30 ans, c'est complètement inaudible, ça n'a pas d'effet, il faudrait s'interroger aussi pourquoi, mais c'est largement connu. Ce que j'ajouterais quand même, c'est que ce n'est pas un problème de jeunes, simplement. Et ça, c'était intéressant, par exemple, les contacts qu'on a eus avec des associations à Saint-Denis, qui expliquent très bien que le problème de la violence policière, le problème des tensions qui sont suscitées par des interventions policières, il se pose pas simplement aux jeunes, il se pose à l'ensemble des habitants, aux habitants qui sont là et qui veulent éventuellement, sinon intervenir, en tout cas qui peuvent être étonnés de la manière dont se déroulent certaines interventions et qui prennent des coups de matraque et qui prennent des gaz lacrymogènes et qui éventuellement, d'ailleurs, ça peut aller assez loin comme ça a été le cas à Saint-Denis le 21 octobre 2001, donc 40 ans après le 17 octobre 2001, 40 ans après le 17 octobre 61. C'est des choses qui ne s'inventent pas, où il y a eu une intervention et tout le monde en a pris plein la gueule, y compris des femmes enceintes, des dames âgées, enfin bon. Donc, ce qui est peut-être nouveau, c'est que comme on est dans une logique de surenchère, comme en même temps les forces de l'ordre sont boostées par leurs ministres, quels qu'ils soient, comme on est dans une exigence de rentabilité, de résultats, c'est pas simplement les noyaux durs, comme on dit dans le Figaro, mais les jeunes et plus largement la population de ces quartiers qui sont sous tension et sous pression. Alors, l'autre côté me paraît aussi important. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe du côté de la police ? Alors, du côté alors, on peut distinguer deux choses. Il y a, pendant le temps, disons, de ce que les policiers appellent les violences urbaines, on va leur laisser ce terme-là, puisque c'est une catégorie policière. Donc, et puis, il y a ce qui se passe, disons, au quotidien. Ce qui se passe pendant les violences urbaines, c'est qu'un, elles sont dépassées, les forces de l'ordre. Et c'est peut-être aussi pour ça que le dimanche 30 octobre, la hiérarchie avait l'impression que ça allait se terminer. Bon, et en fait, ça ne s'est pas du tout terminé. Et là, il a fallu adapter le dispositif et, mettre en place une organisation. Donc, il y a un dysfonctionnement aussi de la police de ce point de vue-là. Elle n'était pas du tout préparée. La deuxième chose, c'est qu'en même temps, quand on rencontre et on discute avec des policiers, même si ce n'étaient pas toujours des policiers de base, certains nous ont dit, on se demandait où on allait et quand ça allait s'arrêter. Et à la fois, il y a bien sûr un discours de l'institution qui consiste à dire « bon, tout ça, c'est les médias, finalement ». Les causes que nous, sociologues, on peut avancer sont bien peu de choses par rapport à la puissance des médias qui serait l'élément déclencheur, puisque les médias en parlent, tout le monde veut imiter. Mais en même temps, il y a une appréhension et les gens disent, on voyait les jours passer, le nombre de voitures augmenter, on ne se sentait pas forcément toujours bien suivi et encadré par notre hiérarchie. Donc on pressent une appréhension. Paradoxalement, il semblerait que les émeutes et permis à l'institution policière d'expérimenter un certain nombre de technologies, de dispositifs. C'est un peu comme pour l'armée, finalement. Hein. La guerre, ça permet, Virilio avait bien montré ça, d'expérimenter. Les violences urbaines, il en va de même pour l'institution policière. Et ce qui est vrai au niveau des techniques ou des dispositifs, hein, y compris l'utilisation d'hélicoptères, hein, quand même, qui n'était pas un phénomène très, très, très courant et qui, quand même, est très traumatisant pour les gens qui habitent les cités. Mais ce qui est vrai pour le matériel est vrai pour les hommes aussi, hein, puisque c'est essentiellement des hommes. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est le discours qui nous a été tenu. C'est finalement, ces événements difficiles resserrent les liens entre policiers, ça renforce le sentiment de solidarité. Et donc, il y a une espèce de dynamique positive, même si, encore une fois, il y a une appréhension qui n'est pas très, très dissible, mais qui est palpable. Alors, en dehors des événements de crise, bon, ce qui est tout à fait clair sur la Seine-Saint-Denis, bon, et je veux dire que là, je pense que le diagnostic est vraiment indiscutable, c'est qu'on a affaire à des jeunes policiers, moyenne d'âge 26 ans, je me souviens plus des chiffres que je cite, mais c'est autour de 60 ou 70%, bon, de moins de 30 ans. Donc on a affaire à des jeunes policiers qui sont envoyés en Seine-Saint-Denis pour leur première affectation, dans des cités difficiles, hein, où ils sont pas bien accueillis, bon, et où éventuellement leur intervention peuvent provoquer ces tensions. Ils sont mal encadrés. Hein, ils sont mal encadrés, entre autres parce que dès qu'ils en ont l'occasion, les officiers demandent leur mutation, et donc il n'y a aucune ancienneté. Donc c'est pas un problème de commande, de comment dire, d'autorité. C'est aussi un problème de connaissance du terrain, hein, mais c'est symptomatique. Hein, c'est-à-dire pour trouver un gradé qui a 4 ou 5 années d'expérience en Seine-Saint-Denis, c'est assez difficile. Bon, et c'est symptomatique. Et puis non seulement on a des policiers jeunes qui sont mal encadrés, qui n'ont pas d'expérience, qui ont peur, mais en plus on a aussi affaire à des obligations de résultat très prégnantes aujourd'hui dans la police, mais c'est pas simplement en France, c'est pas simplement par rapport aux sans-papiers. Et donc ça met l'épée dans le dos, hein, cette obligation de résultat. Donc du coup, on comprend bien, me semble-t-il, pourquoi du côté des jeunes, mais aussi pourquoi du côté de la police, on est dans un cercle vicieux, dans un cercle infernal. On est dans un état de guerre symbolique, mais parfois aussi pas simplement symbolique, hein, parce qu'il y a des moments où on a bien de l'émeute, c'est-à-dire de la révolte, hein, peut-être pas bien répondu à ta question tout à l'heure sur la différence entre émeute et violence urbaine, mais voilà, la différence, c'est que l'émeute est un sentiment, est une protestation collective. C'est une dynamique collective d'action collective. Mais il y a des moments où on n'est plus du tout là-dedans. Hein. On est effectivement dans des guet-apens, dans des actions violentes. Bon, on pourrait prendre le cas récent éventuellement de la Grande Borne, bon, où quand même, je dis ça pour avoir une vision, disons, un peu balancée des choses, bon, a priori, on voit pas trop, jusqu'à preuve du contraire, quels auraient pu être les éléments qui justifient ces représailles, ces violences contre les policiers. Et c'est ça qui est inquiétant. Parce que en méconnaissant, donc c'est tout ce que j'essaie de décrire dans le livre et que je ramasse ici, en méconnaissant ça, on va au-devant de situations encore plus dramatiques. En durcissant la répression, on va au-devant de situations encore plus dures.
France Inter. Ces dernières 24 heures, plus de 1400 voitures ont été brûlées. Des dizaines d'entreprises et de bâtiments publics, écoles ou commissariats ont été attaqués. 36 policiers ont été blessés. Selon le ministère de la Justice, 83 personnes, essentiellement en Ile-de-France.
La violence dans les banlieues, la France passe donc dans une situation d'exception. Il n'y a pas de précédent depuis la guerre d'Algérie. Dominique de Villepin annonce ce soir l'instauration, si nécessaire, d'un couvre-feu dans les banlieues, comme c'est le cas au Rhin-Sy depuis ce soir en Seine-Saint-Denis où le maire Jean,
la coupe est pleine, elle déborde normal. Où le bordel, elle, bordel. L'atmosphère,
on est tous dans la rue.
Sous les balcons, ils pètent un câble.
On est innombrables, frère.
Y'a un tas de repos et de plaques.
Y'a des poulains.
Ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Sur ma tête, vous êtes tous morts.
Emballez tous vos coffres, y'en a, n'y aura pas la paix.
On tape, on se bat la France, canne et on parle à
Champigny,
Bagneux,
Vichy,
Corbeil.
C'est pas la plan.
Et tout ce qui nous reste, mon frère,
ce sont nos départements.
Alors on représente nos villes, on représente la thèse. Et nos slogans, nos hymnes, c'est l'État nique sa mère.
On est vulgaire et alors je vois pas ce qu'il y a des pharaons.
Putain, regarde comment la France
a fait vieillir nos parents.
Massy,
allez, voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel, l'émission les oreilles loin du front. Alors, on discutait avec Michel Kokorev de ce qui s'est passé pendant ces émeutes. Tu insistes dans le livre que tu publies sur justement le fait qu'il y a, selon toi, une séquence historique qui engloberait ce qui s'est passé quelques mois après avec le CPE. Mmh. Le CPE qui a été présenté par Villepin et son gouvernement comme une réponse aux émeutes. Mmh. C'est-à-dire qu'un contrat qui précarisait l'accès, enfin les emplois occupés par les jeunes, a été présenté comme une solution à ce qu'il y avait. Et comment toi tu mets la réaction à ce CPE dans la même séquence historique, quoi, en gros?
Bah, tu viens de le dire, il y a une continuité chronologique, hein, évidente, même si elle produit des effets, elle produit un effet paradoxal. C'est-à-dire, la continuité chronologique, c'est que la réponse à la crise des banlieues de Villepin, c'est... Parce que de Villepin dit « il faut rétablir l'ordre public », donc il est bien sur la ligne répressive et il colle son ministre de l'Intérieur. Mais en même temps, il dit « il faut comprendre les banlieues ». Et donc là, il s'en distingue, et il est plus sur une ligne gaulliste, sociale, etc. Hein, bon. La traduction, c'est le plan d'égalité pour les chances. C'est-à-dire, en fait, déshabiller Borloo, et rhabiller à la manière banlieue, bon, avec cette fameuse ce fameux contrat première embauche qui rajoutait à la hâte en janvier, on ne sait pas trop pourquoi, et qui cristallise presque à lui seul la mobilisation unitaire des syndicats étudiants et salariés, ce qui n'était pas quand même arrivé depuis un certain temps. Bon. Le paradoxe, donc ça c'est la continuité chronologique, hein, puisque donc ça c'est en janvier, et puis février-mars, ça commence à manifester, enfin jusqu'à avril, où on retire l'article 8 sur le CPE, mais le plan pour l'égalité des chances, lui, il est quand même maintenu. L'effet paradoxal, c'est que ça s'appliquait aux jeunes des quartiers, donc quand même, plan pour l'égalité des chances, c'est un lapsus. Parce qu'ils ont quand même bien entendu qu'il y avait un problème avec l'égalité. Malgré tout, hein, c'est une sorte de dénégation politique, mais il y avait bien un problème à ce niveau-là. Sauf que ce n'est pas les jeunes des banlieues qui réagissent, c'est les jeunes étudiants de province d'abord, et puis après de la région parisienne, les lycéens, les salariés. Donc on pourrait dire que c'est... La jeunesse étudiante bien intégrée socialement, hein, c'est pas les exclus, mais quand même qui est fortement touchée par la hantise du déclassement. Donc ce CPE s'est vécu comme une espèce d'institutionnalisation de la précarité. C'est pourquoi les syndicats peuvent s'en mêler. Donc le paradoxe, c'est que ça s'appliquait pas du tout aux étudiants bien intégrés. C'est pourtant eux qui défilent, et qui défilent selon des modalités très conventionnelles. Et évidemment, la grande différence du coup entre les émeutes et le CPE, c'est que dans un cas, on est dans des formes donc non conventionnelles, on est dans la violence. Hein, bon, même si elle a un sens, même s'il y a une logique de l'émeute, c'est ce que j'essaye de montrer. D'un autre côté, on est dans des formes bien conventionnelles, avec bon, toute notre culture, là où on voit les compromis, les négociations. Peut-on être inflexible en démocratie? Ben non, effectivement, l'histoire le montre. Et donc, le mec, il finit par retirer son article 8. Bon. Alors, la séquence, à mon avis, c'est l'espèce d'instrumentalisation politique à laquelle on a assisté. C'est-à-dire que, d'un côté, au moment des émeutes, Sarkozy a surfé sur l'indignation collective que provoquaient les images de voitures brûlées qu'on voyait en boucle à la télévision et dans la presse. Bon. Et si à un moment, il a été vraiment dans une position difficile, il n'était pas vraiment soutenu par ses camarades, les sondages n'étaient pas vraiment terribles, il est sorti et il a capitalisé. Mais de la même manière, avec le retour de la violence, d'abord avec la Sorbonne, puis les Invalides, c'est-à-dire les bandes de racailles qui ont déferlé sur les cortèges étudiants et lycéens, bon, il a repris la main en disant « attention, il ne faut surtout pas qu'il y ait une connexion entre ce mouvement et les cités de banlieue, où ça commençait aussi, où les braises, comme on l'a dit souvent, étaient encore chaudes ». Et d'une certaine manière, et ça c'est un grand classique, l'irruption de la violence de la racaille, hein, des casseurs, a quand même contribué à discréditer ce mouvement et a permis à Sarkozy de reprendre la main aussi sur le terrain sécuritaire. Bon. Et ce faisant, ayant fait la démonstration de sa maîtrise, il pouvait très bien engager une campagne électorale qui se profilait de plus en plus en 2006, débarrassé de ses habits de ministre de l'Intérieur, de premier flic de France, sur un thème qui ne sera pas le thème socio-économique, où la gauche aurait pu faire un peu jeu égal, mais c'est sans doute un des tournants de la campagne, sur le thème de l'immigration et de la question de l'identité nationale. Donc, moi, la séquence, l'unité que je vois, c'est que, comment dire, à la fois, il a repris la main et à travers lui, la société française a manifesté son besoin d'ordre plutôt que d'égalité. Hein, bon. Sans doute que la gauche n'a pas su y faire. Bon. Ça, c'est clair. Mais ce qui reste quand même tout à fait étonnant, c'est que au fond, il y avait un contexte qui était tout à fait favorable avec cette double crise. Et l'épilogue de cette double crise, c'est la victoire haut la main en 2007. Hein. C'est-à-dire la victoire de 2007, c'est effectivement le fait que cette stratégie sur la sécurité, sur la gestion de la violence et aussi sur la dimension ethnique raciale était payante.
Alors, il nous reste très peu de temps. Tout de même, ce serait intéressant quand même de dire quelques mots sur, bah, sur ce qu'il a continué à se passer. On disait en introduction de cette émission que les émeutes de novembre 2005 n'arrivent pas de nulle part. Enfin, il y a une espèce de continuité avec d'autres événements. Et on voit que depuis deux ans et demi maintenant, les phénomènes émeutiers, ou en tout cas de violence urbaine, ont continué. Il y a eu récemment l'exemple de Villiers-le-Bel. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce temps qui nous sépare de ces émeutes de novembre 2005?
Ben, effectivement, tu as raison. Il y a un continuum historique entre avant, pendant et après. Ça, c'est absolument essentiel à prendre en compte. Et donc, ça n'a pas de sens d'isoler comme ça, tout d'un coup, trois semaines, même si ça a été important. Bon, il y a un avant, il y a un après-émeute. Alors, est-ce que Villiers-le-Bel a marqué un seuil? Est-ce que c'est encore plus grave parce qu'on a sorti les armes? En tout cas, on a tiré à la grenaille. Bon, ça c'est une question peut-être qu'on abordera un autre jour. Mais il y a un continuum de situations. Moi, ce qui me frappe et ce qui a d'ailleurs ça a été beaucoup dit, c'est que rien n'a changé dans les quartiers populaires. Là, pour le coup, on va les appeler quartiers populaires. Hein. Rien n'a changé. Le problème de la police n'est pas abordé. Le problème du maintien de l'ordre public n'est pas pris en compte. Le fait que la police, aujourd'hui, n'est pas un élément de pacification sociale dans ces cités, mais un élément de peur et de tension n'est pas prise en compte pour des raisons essentiellement politiques. Bon. Et donc, bien sûr, on est dans un contexte socio-économique qui est mauvais. Bon, tout le débat sur le pouvoir d'achat le montre bien. Et là, on est vraiment au cœur de la structure sociale. Donc on imagine pour les catégories les plus pauvres. Bon. Donc rien n'a changé et sur le plan de la police et sur le plan, socio-économique. Bon. On est donc dans un cycle de l'émeute. Les mêmes causes peuvent produire les mêmes effets. Est-ce que ça peut être pire ? Est-ce que ça peut être... ce qui est quand même un peu inquiétant, ou alors c'est peut-être un peu pessimiste, mais on a l'impression finalement que tout ça est relativement secondaire, que ça n'a pas d'importance dans le calendrier politique ou dans le débat politique, que ce qui est important, c'est le maintien de l'ordre public, et que le reste suscite une assez large indifférence. Alors on peut revenir sur ce que je disais au début, sur le fait que les quartiers se sont ghettoisés et ethnicisés. Au fond, alors ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que, bon, bah, effectivement, dans les années 70 ou 80, il y avait une mixité sociale et raciale. Aujourd'hui, pas simplement à Clichy-sous-Bois, pas partout non plus, mais il y a une majorité de non-blancs et une minorité de blancs. Ça, c'est une réalité qu'on ne veut peut-être pas voir, mais qui est quand même une réalité. Et donc, par rapport à ça, est-ce que ça explique l'indifférence de l'opinion publique, hein ? C'est-à-dire finalement, ces problèmes de violence, ces problèmes de banlieue, c'est des problèmes d'immigrés. Au fond, est-ce qu'ils veulent vraiment s'en sortir ? Bon. Et ce qu'on aura constaté aussi, d'ailleurs, récemment avec les annonces du plan banlieue, c'est qu'il n'y a pas une grande part qui est laissée au collectif. Hein. C'est-à-dire soit on réprime, soit on fonctionne au mérite. Hein. À part ça, la part du collectif est assez mince. Or, moi, je reviens à ça quand même. À mon avis, on réglera le problème des rapports entre population et police que si on traite cette dimension collective, c'est-à-dire pas simplement si on met des moyens, pas simplement si on fait des grandes usines à gaz pour réformer la police, même s'il le faut, mais par exemple en rétablissant de la confiance, hein, c'est-à-dire en travaillant sur les relations entre les habitants et les représentants des institutions. Mais malheureusement, on n'en voit pas le début de ce chantier, ni à droite pour des raisons qu'on comprend, ni à gauche pour des raisons qu'on comprend peut-être moins.
Voilà, il y a plein de sujets qu'on n'a pas finalement pu aborder ce soir. Justement, ces questions du retour de la police de proximité, ce formidable nouveau plan banlieue dont tu as co-signé un texte avec tout un tas de sociologues très recommandables pour expliquer à quel point il était vide.
Et qui a fait disparaître Fadel Amara, parce que où est passé Fadel Amara ?
Je crois qu'elle ose. voilà, il y a aussi peut-être des choses dont on aurait pu parler, s'il y a des municipales qui approchent, il y a toute une sociologie des candidats qui aurait été intéressante à faire. Voilà, ben ça sera pour une prochaine émission. On recevait donc ce soir Michel Kokoreff, le type qui a réussi à faire disparaître Fadela Amara. Donc Michel Kokoreff qui publie « Sociologie des émeutes ». C'est publié aux éditions Payot et ça coûte 21,50 €. Voilà, Michel, merci beaucoup.
Merci à vous.
Un cocktail Molotov se fabrique de la façon suivante. Tu prends une bouteille en verre que tu remplis avec un liquide inflammable. Par exemple, de l'essence volée dans un réservoir de voiture. Il est indispensable d'y rajouter un peu de savon ou de l'huile pour rendre le liquide un peu plus gras. On peut également y rajouter quelques clous, quelques graviers pour rendre l'impact plus fort. Ensuite, on mélange le tout. Puis on prend un bout de chiffon que l'on trempe dans de l'essence et que l'on va fixer sur la bouteille avec un bouchon de liège. On met le feu au chiffon et puis on lance la bouteille vers la cible choisie. Quand la bouteille rencontrera la surface dure, elle explosera.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Allez, ce soir, on a expérimenté un nouveau dispositif, mais c'était pas une agression, c'était une technique radiophonique. Il y avait donc ce soir, pour mettre le feu aux poubelles, celui qui dit des dates et qui a des bonnes blagues en dotation, c'était donc Guillaume Yom. Pour caillasser le quart de police, il y avait le délinquant syndical, c'était Benoît. Et puis encore, pour mettre le feu au quart régie de France Inter, il y avait celui qui ouvre des tranches avec des doigts, c'était Jérémy. Pour mettre le feu à la voiture de son voisin qui ne se lève pas à 5h du mat puisqu'il est au chômage, il y avait le petit sauvageon du 18e, c'était donc Raphaël. Voilà, nous on quitte rapidement le quartier car on voit venir le guet-apens malgache puisque voici Claudie, voici Claudia, et que ce soir j'ai de la fièvre et que toi tu meurs de froid.